Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Le voyage littéraire que nous nous apprêtons à faire ne nous embarque pas dans une contrée lointaine ou dans un temps reculé. Notre voyage se situe ici et maintenant. Mais il nous transporte en quelque sorte dans un monde parallèle, le monde fantaisiste d'un artiste contemporain. C'est un roman écrit en 2002 par Éric Emmanuel Schmitt. Son titre, « Lorsque j'étais une œuvre d'art ». Imaginez un homme découragé, désespéré, complètement abattu. Un homme qui est sur le point de se suicider. C'est lugubre comme début, n'est-ce pas? Eh bien, Éric Emmanuel Schmitt parvient à nous faire sourire de cette situation. Non pas d'un rire cynique, ce serait trop simple. Non, avec la distance bienveillante qui lui est propre. L'auteur parvient à dédramatiser la situation, non seulement en nous exposant les pensées intimes de cet homme suicidaire, mais aussi en imaginant, à l'instant précis où il va passer à l'acte, une rencontre improbable. Voici les premières lignes du roman. J'ai toujours raté mes suicides. J'ai toujours tout raté, pour être exact, ma vie comme mes suicides. Ce qui est cruel, dans mon cas, c'est que je m'en rends compte. Nous sommes des milliers sur Terre à manquer de force, d'esprit, de beauté ou de chance. Or, ce qui fait ma malheureuse singularité, c'est que j'en suis conscient. Tous les dons m'auront été épargnés, sauf la lucidité. Rater ma vie, soit, mais rater mes suicides. J'ai honte de moi. Incapable d'entrer dans la vie et pas fichu d'en sortir. Je me suis inutile, je ne me dois rien. Il est temps d'insuffler un peu de volonté à mon destin. La vie, j'en ai hérité. La mort, je me la donnerai. Voilà ce que je me disais ce matin-là, en regardant le précipice qui s'ouvrait sous mes pieds. Si loin que portaient mes yeux, ce n'était que ravins, crevasses, pointes rocheuses poignardant les arbustes. Et plus bas, un moutonnement d'eau, immense, furieux, chaotique. La falaise de Palombasol était réputée pour ses suicides. Depuis des millénaires, on ne s'y ratait pas. J'y venais donc plein d'espoir. Ce jour-là, à cet instant-là, se trouve sur la même falaise un homme vêtu de blanc, des pierres précieuses aux doigts, d'autres sur les dents. Un milliardaire est là, qui cherche un suicidaire pour lui proposer un marché. Il lui demande d'attendre 24 heures avant de se suicider. Évidemment, notre héros refuse, mais le milliardaire est fin stratège. Il finit par le convaincre et les voilà tous les deux en route, en limousine, vers une propriété luxueuse. Notre héros croit rêver. Il est traité comme un prince, entouré de ravissantes jeunes femmes. Lui et nous sommes piqués par la curiosité. Quelle sera donc la proposition du milliardaire? Piquer la curiosité, c'est déjà un moyen de convaincre le suicidaire de continuer à vivre, n'est-ce pas? Le milliardaire s'amuse à faire grandir le suspense. Il demande à un médecin d'examiner le suicidaire. Et je voudrais vous lire le portrait de ce médecin, par pur plaisir littéraire. Dans un salon isolé, il me présenta un homme tout rond. Lunettes cerclées, les yeux en bille, la bouche en haut, l'individu semblait avoir été conçu autour de son ventre. Son corps était une boule, terminée en haut par une tête chauve, en bas par deux pieds chaussés. Il était emballé, plus qu'habillé, dans des tissus de lin froissé, et une ceinture en cuir bouclait le paquet. Cette lanière divisait exactement le tronc en deux, sans causer aucun bourrelet, ce qui était fascinant vu la corpulence. Et plutôt qu'elle n'ajustait les vêtements à la taille, elle marquait l'endroit exact où les deux demi-sphères se rejoignaient, comme la trace extérieure d'une vis intérieure. Vous voyez le personnage ? C'est un portrait savoureux, une véritable caricature littéraire. Ce qui est étonnant lorsqu'on lit Eric Emmanuel Schmitt, c'est qu'on ne saurait le faire sans esquisser un sourire la plupart du temps. Est-ce dû à sa passion première pour le théâtre ? Il y a dans l'exposé des situations, comme dans ses descriptions, quelque chose qui nous extrait du réel et nous emporte dans l'histoire exactement comme quand on se trouve au théâtre. Eric Emmanuel Schmitt place entre nous et ses personnages une distance propre à l'art dramatique, me semble-t-il. On n'est pas d'emblée emporté par l'empathie ou la confidence. On entre plutôt dans l'histoire en tant que spectateur averti, comme face à l'estrade d'une scène, l'intelligence aux aguets. Avez-vous déjà vu Eric Emmanuel Schmitt en interview ou en photo ? Il arbore exactement le demi-sourire qu'il suscite en nous. Sa faussette en témoigne, ce demi-sourire ne le quitte jamais. Ce n'est que lorsqu'il a posé sur ses lecteurs le même sourire qu'il aborde enfin le contenu de son roman. Le contenu, le voici. Le milliardaire se déclare artiste et demande au suicidaire de lui céder son corps pour en faire la matière de sa prochaine œuvre. C'est sur cette idée qu'Eric Emmanuel Schmitt va bâtir tout son roman. Est-ce que tu te rends compte que tout va être différent désormais ? Je l'espère. Que tu te remets entièrement entre mes mains. Oui. Que tu deviens à jamais dépendant de moi. Oui. Que tu cherches le sens de ton existence dans mon esprit, mon seul esprit. Oui. Que tu deviens en quelque sorte ma propriété. Oui. Pourrais-tu me l'écrire ? Cet échange de consentement a tout l'air d'un piège. En acceptant de céder son corps au milliardaire, notre héros lui cède beaucoup plus que cela. Mais prend-il la mesure de ce qu'il lui abandonne ? Serait-on ici dans une nouvelle version de Faust ? Notre héros serait-il en train de vendre son âme ? En échange de quoi ? De sa vie ? Cette vie qui, au moment où il est face au précipice, ne vaut rien à ses yeux, cette même vie qui, en passant entre les mains d'un artiste, va prendre une valeur marchande sur le plan international. Eric Emmanuel Schmitt nous interroge. Peut-on vendre son corps ? En quoi ce corps peut-il devenir support, matière et même carrément objet de l'art contemporain ? Tu deviens ma propriété, déclare le milliardaire. Eric Emmanuel Schmitt semble ici revisiter le célèbre pacte que signe Faust avec Méphistophélès. Nous proposons sur la page de notre site consacrée à ce podcast un récapitulatif de cette fameuse histoire du docteur Faust, un personnage réel à la fin du XVe siècle. Un maître, un alchimiste allemand dont le tempérament et l'audace ont tant marqué les esprits qu'un conte s'est façonné autour de lui. Un conte populaire qui a inspiré un grand nombre d'œuvres de fiction. De Christopher Marlowe à Goethe, d'Oscar Wilde à Paul Valéry, Jean Giono, Butor ou Bulgakov, Faust n'a cessé de tourmenter les esprits. Et je ne parle pas de la musique, Vous entendez derrière ma voix des œuvres de Berlioz, de Liszt ou de musiciens plus contemporains comme Trevor Jones, Gorillaz ou les Rolling Stones. Ils sont directement inspirés par cette histoire. Et pour ce qui est des films, Faust a hanté les écrans du cinéma depuis ses débuts. Georges Méliès, René Clair et plus près de nous, Brian De Palma, Alan Parker, pour ne citer qu'eux. Je vous invite à visiter notre page pour alimenter cette réflexion autour de ce conte, de ce fantôme devenu fantasme. Revenons à notre roman. Pourquoi notre héros signe-t-il ce pacte? Comment le milliardaire a-t-il réussi à le séduire? L'auteur suggère-t-il que le diable se loge aujourd'hui dans l'art contemporain? Ce roman est une longue réflexion sur les dérives de l'art contemporain, les expositions, la toute-puissance et les performances extravagantes des artistes à la mode qui parcourent le monde à grands coups médiatiques. Voici comment le milliardaire considère ce que l'on appelle communément « beauté ». La nature. Regarde ce à quoi elle arrive, la nature, lorsqu'elle se dépasse. La beauté. Quelle misère! C'est d'une banalité. Il n'y a rien de plus interchangeable que la beauté. Une rose, c'est beau. 10 roses. C'est cher. 100 roses, c'est ennuyeux. 1000 roses, tu repères le truc. L'imposture éclate. La nature n'a aucune imagination. Il m'est arrivé un jour de me trouver devant un champ de roses. Oui, un champ entier, des roses à perte de vue. C'est une épreuve épouvantable pour qui aurait gardé la moindre estime pour le talent d'artiste qu'on prête à la nature. Nul. De l'art industriel, de la reproduction mécanique. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. J'innove, je transcende, j'ouvre une voie. Bien que néophyte dans le domaine de l'art, notre narrateur ne peut pas en rester là. Un jour, alors qu'il est à part entière devenu œuvre d'art, il réussit à s'échapper de sa prison dorée. Il arrive sur une plage. Il y rencontre un vieil homme, assis face à son chevalet, devant l'océan. Toute l'histoire bascule à partir de là. Nous sommes ici au milieu du livre. Je ne dévoilerai pas les différents ressorts dramatiques qui tiennent le lecteur en alerte jusqu'au bout du roman. Je voudrais simplement vous lire un extrait qui s'inscrit aux antipodes du point de vue du milliardaire. Éric Emmanuel Schmitt parvient à y exprimer quelque chose de l'indicible des émotions que peut éveiller un tableau. On comprend ici que l'art n'est pas forcément lié à une extravagance ou à une élite. Nul besoin d'intervention scientifique ou intellectuelle. Éric Emmanuel Schmitt propose une définition de l'art qui puise sa force dans l'immanence. Il ne peignait pourtant rien de ce qui est visible. Il peignait l'air, un air précis, celui du matin même, entre la mer illimitée et le ciel illimité. Si je quittais son cadre, je ne voyais plus qu'avec mes yeux, j'inventoriais les éléments connus, répertoriés, l'ordinaire d'un bord de mer, la plage à marée basse, les oiseaux endormis, les oiseaux profitant du retrait des eaux pour chasser à même le sol, l'éther éblouissant. Mais dans son cadre, l'invisible surgissait. J'y voyais ce qui avait été et n'était déjà plus, un moment du temps. Cet air-là que je respirais à narines larges, sous un soleil d'acier, cet air qui avait changé, qui n'existait plus, cet air qui appartenait alors à un monde minéral, sable et rocher, relevé çà et là par le piment des corruptions cruelles, poissons séchés et algues abandonnées. Je ressentais une émotion longue, bouleversante, violente, entre la stupeur et l'émerveillement. J'éprouvais le bonheur d'exister, la joie simple d'être au milieu d'un monde si beau. N'être pas grand-chose et beaucoup à la fois. Une fenêtre sur l'univers qui me dépasse, un cadre dans lequel l'espace devient un tableau. Une goutte dans un océan, une goutte lucide qui se rend compte qu'elle existe et que par elle, l'océan existe. Minuscule et grande, intense et misérable. L'invisible, au-delà du visible. Peindre l'air du matin, peindre un moment du temps, faire surgir cet invisible qui sous-tend non seulement ce que l'on peut voir, mais qui sous-tend aussi l'orchestration de toutes nos sensations confondues. Notre héros éprouve une émotion intense, primordiale, jubilatoire, une émotion qui ressemble à une révélation. La peinture lui révèle la beauté du monde et lui révèle surtout qu'il y participe, qu'il est lui-même partie du monde, qu'il est ce monde. Révéler que l'on est le tout et que l'on n'est presque rien, telle serait donc la vocation du peintre. Le peintre ne célèbre jamais d'autre énigme que celle de la visibilité. C'est ce que déclare Merleau-Ponty en explorant les mécanismes de la perception. À travers le visible, de ce qu'il inscrit dans son cadre, le peintre donne à voir autre chose, de l'ordre de l'invisible. Ce regard sur la peinture que nous propose Éric-Emmanuel Schmitt me fait penser à ce que dit Merleau-Ponty des toiles de Cézanne. Il dit que Cézanne cherchait à peindre la vibration de l'air, sa consistance, sa densité. Il emploie une expression évocatrice. Il dit qu'il cherchait à peindre la chair du monde. La phénoménologie révise les méandres de la perception et renverse notre relation au corps. J'ai compilé sur la page de notre site quelques citations à ce sujet. Venez chatouiller votre sens esthétique en visitant notre page. Lorsque j'étais une œuvre d'art. C'est un roman qui interroge le monde contemporain à travers une histoire cocasse et des personnages emblématiques de notre société. Et puis, il y a l'amour. Je n'ai évidemment qu'effleuré toutes les thématiques abordées par Éric-Emmanuel Schmitt. Si vous lisez le roman en entier, vous découvrirez un détail surprenant concernant ce peintre sur la plage. Un détail qui donne encore plus de relief à ce roman à la fois actuel et carrément intemporel. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à visiter la page de notre site consacrée à ce podcast. Il y a là de quoi nourrir la réflexion autour de Faust, de la peinture et plus généralement autour de l'art contemporain. Merci à Marie pour les images et la technique. Vous souhaitez embarquer avec nous pour un nouveau voyage littéraire ? Rendez-vous sur notre site où les destinations sont classées par auteur ou par thématique. Retrouvez-nous aussi sur YouTube, sur les réseaux et toutes les plateformes dédiées. À bientôt.